Prédication apportée par le pasteur Alain Ouvrard. Thème: Second souffle.
On a chanté des très beaux chants. Et on a chanté surtout l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Et il y a cette citation que j'aime beaucoup. Il est dit que si le ciel était rempli d'encre, il n'y en avait pas encore assez pour écrire l'amour de Dieu pour ses créatures, pour les hommes et les femmes que nous sommes. Voilà, je vous invite à tout simplement à ouvrir votre Bible. Nous allons faire deux lectures, si vous voulez bien suivre avec moi. Une première lecture que nous allons ouvrir dans le livre des psaumes, un texte dont l'auteur c'est David, le roi David, au chapitre 34, ou le psaume 34 plutôt, et au verset 18. Nous allons en effet parcourir ces quelques versets, puis ensuite nous nous reporterons sur un autre texte de la Bible, précisément dans l'Ancien Testament également. Voilà, le psaume 34, verset 18. « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. » Voilà, nous avons à travers ces paroles probablement l'expérience de David qui a écrit ces choses, non pas parce qu'il avait envie de les écrire, mais certainement c'était le fruit de son expérience, et lui-même, dans certaines circonstances de sa vie, a dû plus d'une fois expérimenter que l'on peut crier vers Dieu et qu'il entend, qu'il délivre. Et puis également, à plusieurs égards, il a dû aussi s'apercevoir que Dieu est le réparateur de nos cœurs lorsqu'ils sont brisés. Et lorsque notre esprit est confondu, eh bien, c'est lui qui nous rêve. Alors, pour illustrer tout cela, je vous propose que nous fassions une seconde lecture. Nous allons la faire quelques pages auparavant dans notre Bible, dans le livre des Rois. C'est l'histoire d'un autre homme de foi, d'un autre croyant qui s'appelle Élie. Et au verset 19, un roi, chapitre 19, verset 1er, nous allons lire son histoire. Parce qu'elle est intéressante par le fait que, comme nous l'avons dit il y a un instant, eh bien, Dieu est capable non seulement d'entendre, mais de délivrer d'une manière extraordinaire et admirable. Mais il faut crier. Et nous allons voir que dans certaines circonstances de détresse de notre vie, eh bien, si nous crions, eh bien, Dieu est celui qui est près de nous. Et il nous délivre, encore une fois de plus. Donc, 1 Rois, chapitre 19, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal, les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y est son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il se fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshri, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Voilà, que Dieu nous conduise à travers cette méditation, et je crois qu'elle est propice, finalement, dans les temps dans lesquels nous sommes, où il y a tant de gens, tant de monde qui souffrent de différents maux, différentes inquiétudes, différentes angoisses. Que cette parole, eh bien, elle peut être un véritable réconfort, et elle est faite pour cela d'abord. Mais avant de pouvoir ressentir ou apprécier le réconfort, je crois qu'il y a tout un cheminement préalable qui est celui de pouvoir construire notre foi. Parce que Dieu répond, et quand nous l'avons lu tout à l'heure, l'Éternel entend lorsqu'un malheureux crie. Mais il crie, il ne fait pas seulement de crier ou de prier, mais il crie ou il prie avec foi. Parce que la chose que Dieu agrée de chacun d'entre nous, c'est tout simplement la confiance que nous lui faisons dans nos situations difficiles, détresse ou autres. Alors, pour resituer le contexte dans lequel nous avons lu l'histoire de cet homme de Dieu, qui n'est pas des moindres, Élie, c'est un grand prophète, c'est un grand homme de foi, et pourtant, lui aussi, lui est arrivé cette mésaventure de douter, et puis de connaître véritablement une peur réelle, une peur profonde, une peur panique. Alors, pour dire tout simplement, resituer, eh bien, on sait qu'Élie vient d'être utilisé par Dieu pour faire des choses extraordinaires. Il va là manifester par la foi la puissance de Dieu qui va intervenir pour, en quelque sorte, éteindre le feu. On peut lire naturellement, chacun peut lire dans ce passage, au chapitre 18, ce qui s'est passé dans ces circonstances. Élie au mont Carmel, où il y a une confrontation entre tous ces faux prophètes, tous ces hommes de l'idolâtrie, et puis Élie qui est le tenant de Dieu et qui lui va demander à Dieu de faire un miracle. Et le miracle va se produire. Alors, nous voyons que le peuple, devant le miracle, le peuple d'Israël, qui est un peuple déviant, un peuple qui, quelque part, a perdu la notion de la foi, eh bien, va revenir, en quelque sorte. Ils vont revenir maintenant, quant à la solidité de ce retour, ça reste à prouver, mais néanmoins, le miracle a été fait. Alors, Élie va véritablement être l'instrument de Dieu pour manifester le prodige. Et puis, nous voyons que dans cette circonstance, alors qu'il s'est passé des choses extraordinaires, que Dieu a jugé aussi les faux prophètes, alors le roi d'Israël, accompagné de sa femme, va être courroucé, va être dans une colère folle, parce qu'il n'admet pas ce qui s'est passé. Et entre autres, la femme d'Akab, Jézabel, va vouloir faire mourir le prophète Élie, et avec des imprécations, et elle va dire ceci, que les dieux me traitent en toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des autres prophètes, que le jugement de Dieu avait atteint. Alors, on voit que les choses sont pathétiques, elles sont dramatiques pour Élie, et cet homme aurait pu avoir une autre réaction. Quand il a été témoin et l'instrument de Dieu pour ce miracle du feu qui descend du ciel, et nous voyons que les choses vont se renverser à un moment donné, et l'homme fort va devenir véritablement un homme en fuite. Un homme qui va être pris de panique, Élie va être pris de panique. Et il nous est simplement dit que, ayant entendu cela, ayant vu cela, alors il s'est levé, il s'en est allé pour sauver sa vie. C'est quand même assez paradoxe dans la nature humaine que nous sommes capables parfois de faire des choses extraordinaires. Et puis dans d'autres cas, dans d'autres situations, eh bien, nous prenons la fuite et nous sommes complètement et totalement déconcertés. Alors, il va partir. Il va fuir la menace qui pèse sur lui. Alors, il est arrivé dans une contrée que l'on appelle Beersheba et il a laissé son serviteur. Il était accompagné naturellement, probablement, de son fidèle serviteur et lui a dit « Maintenant, laisse-moi tout seul, laisse-moi tranquille. » Une des premières choses que nous remarquons, c'est que lorsque nous sommes aux prises avec la peur, avec la dépression, qu'elle soit morale ou spirituelle, parce que c'est une véritable peur spirituelle, une véritable dépression morale et spirituelle qu'il connaît là, dans le cas qui nous intéresse, alors il veut rester seul. Et c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure solution lorsque certaines situations nous atteignent, eh bien de s'isoler. Mais il va le faire, et en cela, il est bien comme il est bien de tout à fait reconnaissable dans sa nature humaine, c'est-à-dire qu'on ne veut plus voir personne. Alors, il s'isole. Et il nous est simplement dit qu'il est allé dans le désert, où après une journée de marche, il s'est assis sous un genêt, et là, à ce moment-là, il a demandé une chose assez terrible. Il a dit à Dieu, maintenant je veux mourir. C'est pour vous dire qu'on peut passer de l'euphorie à un effondrement catastrophique. Puisque cette euphorie, il l'a connue au moment du miracle extraordinaire de ce feu. Et puis, tout de suite après, eh bien, devant une femme, parce que c'est vrai que c'est la reine. Hein, elle va certainement mobiliser des soldats pour courir après lui. Mais devant les menaces de cette femme, eh bien, là, il va être complètement déconcerté. Donc son isolement, il va errer dans le désert, il va courir dans le désert. Et l'image du désert, c'est courir véritablement, on ne sait pas où aller. Hein. C'est-à-dire qu'on s'enfuit hein, et on court vers l'horizon, mais on ne sait pas où on va. Alors, ça, c'est aussi les caractéristiques, en tous les cas, les symptômes de la dépression d'Élie. Et il a marché. Il a marché, il a erré, plutôt. On pourrait dire que, hein, ne sachant pas où il se dirigeait, probablement en cherchant un hypothétique refuge, là où il pourrait être tranquille, là où il pourrait trouver la paix, là où il pourrait se mettre à l'abri de ceux qui le poursuivent, mais il va donc tout simplement faire une journée de marche, et marcher une journée entière, ça doit être certainement fatigant, hein, probablement, et surtout, qui plus est, dans un lieu désert. Hein. Alors, d'épuisement, certainement, sur le soir, eh bien, il a trouvé un petit arbuste, un genêt, et là, il s'est certainement effondré, et il a parlé à Dieu. Et il a dit à Dieu, tout simplement, eh bien maintenant, donne-moi la mort. Alors, je ne sais pas si ça peut se concevoir pour un croyant, de demander à Dieu de mourir. Ça fait partie des prières qui sont rarement exaucées. Hein. Parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que lui voulait mourir, il n'est pas mort, et il y a des gens qui veulent vivre et qui meurent. On l'a encore vu cette semaine avec ce séisme, cette catastrophe à Haïti. Et certainement, ces gens espéraient vivre, quoi qu'il en soit. Mais là, dans notre méditation, eh bien, il a demandé et il a dit ceci, mais c'est assez. C'est assez, je n'en peux plus. Un épuisement, un abattement profond, un découragement. Et en arrière-plan, eh bien, il y a cette terrible angoisse, cette détresse. Et c'est quand même assez curieux, c'est que Jézabel, qui courait après lui pour le faire mourir, eh bien, il avait qu'à retourner vers elle. Là, il aurait eu satisfaction, il aurait eu tout de suite la réponse. Hein. Mais, quelquefois, on demande des choses. Quelquefois, on aspire à des choses qui ne se produiront fort heureusement jamais. Mais Dieu écoute, Dieu entend. Alors, il va simplement ajouter ceci, mais c'est assez. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est curieux parce que il va faire référence finalement à ceux qui étaient avant lui, à ses pères. Alors parlait-il sur la lignée naturelle ou peut-être par rapport à Israël en général ou au prophète qui était avant lui, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il va le constater. Alors pensait-il qu'il était meilleur que les autres? Vous voyez, quelquefois c'est un mélange, c'est une confusion lorsque nous sommes dans cet état d'esprit, dans cet état d'âme. Alors il va demander donc que Dieu lui ravisse son âme. Et puis avec cette constatation, parce que c'est lui qui porte le jugement, je ne suis pas meilleur. Ouais. Que pensait-il? Que croyait-il à cet instant? Alors, il s'est couché, nous rapporte le livre des rois, il s'est couché et il s'est endormi sous son genêt. Sa prière, eh bien là, est montée vers Dieu. Et puis, finalement, ne pouvant pas aller plus loin, il s'est dit, bien maintenant, je m'endormirai demain matin, je ne me réveillerai pas. Allez. Il espérait qu'il ne reverrait pas le jour. Mais ce n'est pas ce qui va se passer, finalement. Parce qu'il va être visité, Élie, dans ces circonstances. Et il va être visité, nous dit le texte, il va être visité par un ange. Voilà. Alors, il aurait été réconforté par un homme, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais là, c'est autre chose. Il nous est dit qu'un ange le toucha et lui a dit, lève-toi et mange. Réveille-toi. Réveille-toi de ta torpeur. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton découragement, en quelque sorte, ce qui n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui est dans la détresse ou dans l'angoisse, secoue-toi. Mais c'est une voix qui vient du ciel. On l'a vu, c'est un ange qui lui parle, et cet ange l'a touché. Avait-il besoin justement d'avoir cette sensation ou cet attouchement pour eh bien, ressentir un bien? Vous savez, quelquefois les paroles sont bonnes, mais les paroles et une manifestation de tendresse, c'est encore mieux. Là, il s'agit tout simplement d'un attouchement. Donc l'ange l'a touché et lui a dit, mais lève-toi et mange. Il aurait pu rétorquer, mais ça fait une journée que je marche. Je suis dans l'épuisement, je ne peux plus aller plus loin, je ne peux pas, et je ne peux pas imaginer que je ferai un pas de plus. Mais pour marcher, pour se lever, pour aller plus loin, eh bien, il faut que l'homme reprenne vigueur. Et le meilleur moyen pour reprendre de la vigueur, eh bien, c'est tout simplement de manger. Alors, il a regardé, et comme Dieu pourvoit à tout, dans nos situations, les épisodes de notre vie où nous pensons qu'il n'y a plus rien à espérer, eh bien, il va, en ouvrant les yeux à ce moment-là, il a regardé, et il y avait près de lui un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche. Vous savez, il y a cette belle parole d'ailleurs qui a donné finalement un sens au nom de Dieu, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Et quand on est dans l'état d'esprit d'Élie, que l'on crie une prière qui n'est certainement pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu voulait que Élie vive, et vous allez découvrir avec moi qu'il y avait encore une mission pour lui, que sa vie n'était pas terminée et qu'il y allait encore certainement avoir des choses extraordinaires à faire, et que nous nous disons, eh bien Seigneur, je ne peux plus aller plus loin, je n'en peux plus, alors Dieu pourvoit. Et il va pourvoir aux besoins de son prophète avec des choses tout à fait simples. Hein, une parole, un attouchement, et puis la nourriture qui se trouve là. Où l'aurait-il trouvé s'il n'y avait pas eu une intervention divine? Ça semble banal, ça semble tout naturel, mais ce n'est pas cela. C'est beaucoup plus que cela lorsque nous décodons le sens de ces paroles. Pierre chauffée, qui montre bien que les choses avaient été préparées. Et puis, une cruche d'eau, certainement tellement nécessaire. Alors, le prophète, à ce moment-là, a mangé, il nous a dit qu'il a mangé, il a bu, et il s'est recouché. Voilà. Il n'a pas fait ce que l'ange lui a demandé, c'est-à-dire de se lever. Et puis, de se tenir, et bien prêt. Alors, il s'est recouché. Ça, c'est un petit peu la situation de ceux qui, quelquefois, dans des moments de dépression ou d'épreuve, vous savez, ils se mettent dans un lit et puis ils tirent la couverture au-dessus d'eux. Comme ça, le monde est fermé, on ne pense plus à rien, que nous croyons plus penser à rien. Mais quelque part, c'est dans notre tête et c'est souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Notre cœur et notre âme est toujours agitée, quoi qu'il en soit. Alors on va passer à tel là. Il nous est dit qu'il s'est recouché, mais tout à nouveau, l'ange, à ce moment-là, est venu une seconde fois. Il l'a touché encore et lui a dit, mais lève-toi, mange. Et il va préciser cette parole qui n'avait pas été donnée précédemment, car le chemin est trop long pour toi. Oui, Dieu connaît nos limites. Il connaît là où véritablement, eh bien, nous restons bloqués, où nous avons vraiment beaucoup de peine et de grandes difficultés à continuer. Et c'est vrai que dans la dépression des hommes, dans le découragement, dans la peur, dans cette lassitude de vivre, souvent, eh bien, il faut un petit coup de pouce. Il faut qu'il y ait des circonstances. Et vous avez remarqué, hein, au cœur même de ce désert, hein, finalement, le chemin d'Élie est parsemé de miraculeux. Et c'est souvent dans le désert que l'on rencontre le Seigneur. Là où il n'y a rien, un désert par définition, c'est là, c'est un endroit vide. Mais peut-être faut-il que le vide se fasse pour que Dieu nous rencontre. Parce que nous sommes tellement encombrés dans nos existences. Nous avons tant de choses dans notre tête. Notre corps est si fatigué. Notre âme est tellement agitée, tellement perturbée, tourmentée par toutes sortes de choses. Alors les bienfaits de courir dans le désert, parce que c'est dans le désert précisément que Dieu l'a rencontré. Et c'est là où Dieu lui a parlé. Et Dieu l'a rassuré, lui a dit, mais c'est vrai. C'est vrai que le chemin est trop long pour toi. Alors peut-être nous pouvons interpréter cela pour nous, je ne sais pas, je parle de cette manière ce soir, mais y a-t-il un ami ou une amie qui, entendant cette parole, se sent interpellé ou concerné par cela? Parce que ça peut-être a été le sujet de votre réflexion ou de votre pensée cette semaine en disant « je ne peux pas aller plus loin, je suis malheureux, je suis profondément accablé, je ne sais pas ce que l'on pourrait faire pour moi. Est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose pour moi ?» Et Dieu de nous répondre et de vous répondre. Mais c'est vrai que le chemin est trop long. Alors comment continuer? Une chose dont nous avons besoin d'être convaincus, c'est que ce chemin-là, nous n'allons pas le faire tout seul. Ouais. Nous allons le faire avec Dieu et c'est Dieu qui va nous porter. C'est lui qui va nous conduire et nous conduire jusqu'au bout. Alors, à ce moment-là, il semblerait qu'en ayant entendu cette dernière parole, Élie s'est levé, il a mangé et il a bu. Et excusez-moi du peu, mais quand même, la parole nous renseigne d'une manière admirable sur ce que Dieu fait. Il nous est dit qu'à ce moment-là, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Imaginez-vous l'énergie. Et ça, c'est une énergie surnaturelle. Ça ne vient pas de l'homme. Il ne s'est pas raisonné en disant, ben voilà, oui, c'est vrai que je vais faire encore un effort, je vais essayer de prendre sur moi et puis j'irai jusqu'au bout. Non, c'est pas ça, il n'en était pas capable. Et je crois que c'est un formidable, formidable encouragement pour tous ceux qui n'en peuvent plus. Et il y a des milliers de gens autour de nous qui n'en peuvent plus, pour différentes raisons. Hein. Soit en raison de catastrophes survenues dans leur existence, sur le plan peut-être de la maladie ou de l'accident physique. Peut-être c'est un épuisement moral parce que les difficultés s'accumulent. Peut-être les conditions professionnelles ou les conditions de chômage ou les conditions peut-être économiques, peut-être sentimentales. Toutes sortes de choses qui font que beaucoup de gens qui ne l'avouent pas, mais vivent, enfin existent pour ne pas dire vivre, existent tout simplement et se demandent eh bien, quel est le sens de leur vie et ce qu'ils peuvent bien faire. Alors, nous voyons que la parole que Dieu nous donne, c'est une nourriture qui donne de la force. Voilà. D'ailleurs, justement, Jésus le dira dans l'évangile, il dira, je vous donne une nourriture céleste. Et si nous avons besoin de nourriture qui entretient notre corps, comme nous connaissons et dont nous sommes familiers, une chose qui est certaine, c'est que ce qui guérit du découragement, de la dépression, de l'angoisse, ce qui nous libère de la peur et de tout le reste, du mal qui atteint Élie et qui peut atteindre des milliers et des millions de personnes, c'est que nous entendions et que nous nous réconfortions, que nous prenions cette nourriture qui est la parole de Dieu. Et nous voyons que Jésus le soulignera, empruntant un passage, je crois, du prophète Ésaïe, quand Dieu dira, « Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. » Et ça, c'est ce que nous avons besoin. Il y a un monde qui est en détresse. Vous savez pourquoi il est en détresse? Parce qu'il y a bien longtemps qu'on a tourné le dos à la Bible, qu'on a tourné le dos à l'Évangile, aux messages et aux promesses divines. Il y a bien longtemps que les hommes ne s'intéressent plus à ça. Alors on comprend que le monde dépérit, que le monde est là dans une misère et une indigence morale et spirituelle terrible, enfin morale en tous les cas. Et il nous est simplement rappelé qu'avec cette nourriture, eh bien il a marché. Ce qu'il ne pouvait plus faire, puisqu'il était accablé, on l'a vu il y a un instant, il a marché 40 jours et 40 nuits, imaginez-vous. Hein. Quelle énergie, hein. Ça c'est quelque chose. Et il est allé jusqu'à la montagne de Dieu. C'est très symbolique tout ça. Il a pu atteindre, il a pu rejoindre, il a pu se mettre en position dans ce lieu qui est la montagne de Dieu. Et c'est là où Dieu va lui parler tout à nouveau. Et c'est là où Dieu va continuer à le guérir et à le relever et à lui faire du bien. Alors on poursuit. Quand il est arrivé à cet endroit, dans ce lieu tellement fort, tellement impressionnant, tellement saint, qui est la montagne de Dieu à Horeb, alors à ce moment-là, il est rentré, il s'est réfugié dans une caverne, c'est-à-dire dans un lieu clos, un lieu sombre, un lieu inhospitalier. Et il y a passé la nuit. Vous avez remarqué que notre Élie, dans cette affaire, il ne fait que dormir, hein, et il ne fait que manger. C'est tout. C'est très, très, très végétatif. Mais est-ce que ce n'est pas la condition de ceux qui souffrent, hein, quelquefois? On ne fait pas autre chose. On mange parce qu'il faut manger, et c'est tout juste, parce que ça passe à peine. Puis dormir, on voudrait tellement dormir pour ne plus se réveiller, pour ne plus penser, pour ne plus souffrir. Alors il s'est renfermé tout à nouveau. Et Dieu sait très bien la détresse de son serviteur, de son prophète et des hommes que nous sommes. Alors il lui a parlé encore. Il nous a dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, et Dieu va l'interpeller. Que fais-tu ici? Si Dieu pose la question, c'est pas tant que Dieu ignore ce que Élie fait dans cette caverne, mais quand Dieu nous pose une question, c'est pour que nous lui répondions. Et à partir du moment où nous commençons à lui répondre, c'est que nous sommes encore vivants, pour savoir où nous en sommes, quelque part. Une réaction. Que fais-tu ici, Élie? Alors, là, vous allez entendre des gémissements, parce que ce qu'il va dire à Dieu, c'est véritablement ce qu'il pense au fond de lui-même, ce qu'il ressent. Et vous avez remarqué combien il est négatif. Et combien, lorsque nous sommes aussi dans cet état, combien nous sommes en train de ressasser des choses qui sont négatives. Comme si, en parlant de négatif, eh bien, nous allions nous guérir. Ah, il ne sait pas. Il ne sait plus, en tous les cas, Élie, dire des choses qui pourraient être encourageantes et l'encourager lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais Seigneur, j'ai répondu, j'ai déployé mon zèle pour toi, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Pauvre Élie. Ça fait beaucoup de choses, ça. D'abord, il dit, mais je me suis épuisé pour toi. J'ai déployé mon zèle. C'est vrai qu'il devait être zélé. Quand on connaît le caractère et le tempérament de cet homme de Dieu, je crois qu'il ne faisait pas les choses à moitié. Et nous voyons qu'il va le dire à Dieu, mais Seigneur, comment cela peut-il se faire, moi qui ai consacré ma vie, qui ai donné ma vie, qui me suis tant dépensé pour toi, pour ta gloire, pour ton honneur, je me suis battu pour ramener le peuple d'Israël, eh bien, vers toi, j'ai tellement déployé mon zèle, mais comment cela peut-il se produire après avoir été tellement à l'œuvre pour toi qu'il m'arrive une telle chose, qu'il m'arrive que je sois dépressif, que je sois malade, que je sois malade à mourir. Alors n'allez pas penser, ce n'est pas parce que nous servons Dieu, que nous sommes chrétiens, que nous aimons Dieu, qu'il ne nous arrivera pas l'aventure des vies. Quelquefois, nous avons entendu cette réflexion qui est complètement contraire à, finalement, eh bien, la vie de la foi, la vie chrétienne, où il m'est arrivé de saisir ces paroles, « Parce que je sers Dieu, il ne m'arrivera rien. » Alors là, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que ça ne veut rien dire. Et on le voit dans le cas qui nous intéresse, c'est qu'il pensait que parce qu'il servait Dieu, eh bien, il ne lui arriverait rien, il ne lui arriverait pas les choses qu'il le connaît présentement. Et il continuera à se plaindre, il dira « Mais les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont même été renversés tes autels. Sacrilège pour, eh bien, des Israélites, des hommes croyants, pour faire des choses pareilles, des choses semblables. » Et il est outré quand il parle de cette manière. Et ils ont même tué par l'épée des prophètes. Enfin, lui, il avait tué aussi des faux prophètes quelque temps avant. Peut-être l'avait-il oublié, mais toujours est-il que c'est ce qu'il va dire. Et pour comble, il ajoutera ceci, « Je suis resté moi seul. » Dieu va lui révéler qu'il n'est pas si seul que cela. Et c'est vrai que lorsque nous traversons ces tempêtes de l'âme, ces tempêtes dans nos pensées, dans notre esprit, nous pensons que nous sommes vraiment seuls. Alors, si ça peut vous réconforter, vous qui traversez des moments de flottement au niveau de votre vie morale, je voudrais vous dire qu'il y a des dizaines, des centaines, des millions, des milliers et des millions de gens qui vivent ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, on ne va pas toujours le dire, mais c'est une réalité. Mais quand on est dans cette condition, vraiment, on le sent, on se sent vraiment seul, et c'est vrai. C'est une impression que nous avons en disant « Mais personne ne me comprend, je suis là dans mon désert, je suis sur mon île, et puis plus personne ne s'intéresse à moi. » C'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il ressentait en quelque sorte. Alors, en plus, il cherche à m'ôter la vie, c'était une vérité. Il est déprimé. Alors Dieu va lui dire cette parole, et si c'est Dieu qui le dit, ça va. Quand nous disons les choses, c'est peut-être pas forcément écouté et entendu. Dieu va lui dire, mais sors, et tiens-toi dans la montagne, devant moi, devant l'Éternel. Parce que Dieu avait quelque chose à lui dire. Il faut sortir. Il faut demander à Dieu qu'il nous donne l'énergie de percer notre découragement, un tant soit peu, ne serait-ce qu'une petite lueur, en disant, mais je ne suis pas perdu. Ce n'est pas fini. Je ne suis pas mort encore. Ce que nous croyons, que tout est terminé dans notre existence. Alors, Dieu va lui dire, mais sors. Alors, tu vas te tenir dans la montagne. Tu vas te tenir devant moi. Et une montagne, c'est toujours quelque chose qui est, par rapport à la vallée, c'est au-dessus. C'est-à-dire que tu vas te tenir debout, et moi, je vais te parler. Regarde plutôt vers le ciel que de regarder vers la terre. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et là, il va se passer un phénomène particulier qui va, eh bien, changer le cours des choses. Et vous allez voir que c'est curieux de la manière dont Dieu traite nos défaillances et nos découragements. Alors, Dieu n'a rien dit cette fois-là, mais il a fait. Après avoir dit, il fait. L'Éternel passa. Vous savez que Dieu passe très souvent auprès de nous. Il passe plus souvent que nous en sommes conscients. Puisqu'il venait de dire, je suis moi seul, je suis resté moi seul. Non. Vous savez que Jésus nous laisse une des plus belles promesses qui existent dans la parole de Dieu, quand il nous dit en conclusion de l'évangile de Matthieu, vous la connaissez, hein, vous pourriez la redire hein, tout simplement, que Jésus nous dit, mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai. C'est une présence qui est saisie par la foi. C'est pas que je ressens, je peux la ressentir, mais je la vis parce que je la crois. Et je sais que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et combien avons-nous besoin dans nos moments de détresse et nos moments d'isolement ou de désert, combien avons-nous besoin de nous remémorer cette affirmation où nous savons que Jésus est là. Même si je ressens le contraire, je sais qu'il est là. Alors, l'Éternel n'a fait que passer. Il était là, et devant l'Éternel, d'abord, il y a eu un vent fort, violent, à tel point que ce fracas, ce souffle, en arrivait à déchirer les rochers, à ébranler les montagnes. Et après le vent, il nous est dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Dans ce séisme, eh bien, il nous est, comme dans le vent, il nous est dit, mais Dieu n'était pas dans ces manifestations transcendantes, dans ces manifestations terribles. Après, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Qu'est-ce que nous aurions pu penser ? Est-ce que nous pouvons nous imaginer que Dieu est dans le vent ? que Dieu est dans le feu, que Dieu est dans un tremblement de terre, et tout cela évoque la puissance, évoque la souveraineté, la suprématie de Dieu pour nous délivrer. Écoutez bien la suite. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et vous savez, c'est comme ça qu'on guérit. Arrêtons de nous conforter dans nos idées reçues et de dire, mais Seigneur, je veux voir ta puissance. Mais Dieu n'est pas obligé de nous montrer sa puissance. Il peut passer tout simplement auprès de nous et nous manifester cette tendresse et cet amour dans un souffle doux et léger. On s'attend à quelque chose de fort, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire, et ce n'est pas dans le spectaculaire ni l'extraordinaire. C'est dans quelque chose de tout simple, qui est le témoignage tout simplement de son amour et de sa grâce. Vous savez, quand il nous est présenté Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, en référence à une vieille promesse, une vieille prédiction, une vieille prophétie de la Bible, il nous est dit que quand Jésus est venu, et c'est ce qu'il a fait réellement, on ne l'a pas entendu crier. Il n'a pas crié dans les rues. Il n'a fait que tout simplement, être au milieu des hommes en leur faisant du bien, en leur apportant le témoignage de la tendresse et de l'amour de Dieu. Et c'est même lui, d'ailleurs, c'est de lui, il est question, qu'il n'a pas éteint et qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume. Un souffle doux et léger, c'est ce que nous avons besoin dans nos vies. Et cette parole que nous entendons ce soir, c'est un souffle, me semble-t-il, doux et léger pour tous ceux qui sont affligés. Alors, Dieu peut vous parler par l'extraordinaire, par le vent, par le feu ou par le tremblement de terre, mais peut-être encore plus sûrement, il peut nous parler par des paroles qui sont les siennes, naturellement, et qui iront droit à notre cœur, sans qu'il y ait des montagnes qui éclatent et des rochers qui se brisent. Quand Élie l'a entendu, alors à ce moment-là, il s'est enveloppé le visage de son manteau, il est sorti et il s'est tenu à l'entrée de la caverne. Oui, il était dans le noir dans cette caverne. Il était renfermé dans les entrailles de la terre, dans les entrailles de sa misère, de sa dépression, de son découragement, de son abattement, de son angoisse. Et là, il est sorti. Il est sorti parce qu'il a entendu cette parole. Il s'est enveloppé. Il s'est caché, non pas sortant de cette caverne, mais en prenant son manteau. Ce fameux manteau dont on pourrait dire encore beaucoup de choses. Vous connaissez l'histoire un peu plus tard. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Pour la deuxième fois, c'est Dieu qui lui parle. Vous savez, je crois que Dieu est capable de nous guérir dans l'instant et sur le moment d'une manière extraordinaire. Mais je sais aussi par expérience, l'expérience de Jean, que nous avons suivi, mon expérience personnelle, Dieu nous traite et nous guérit par étapes. Ouais. C'est un suivi de Dieu. Et là, il nous apprend à faire des pas nouveaux. Il nous apprend à connaître ce réconfort, cette consolation, à reprendre des forces, à faire vers la vie de nouveaux pas. Et chaque pas nous affermit, chaque pas nous amène à quelque chose de nouveau. Ce que j'aime bien chez Dieu, ça dépend naturellement comment on interprète les choses et comment nous sommes réceptifs. Moi, ce que j'aime bien chez Dieu, c'est sa manière, finalement, de faire, qui est toute douce, qui est remplie de prévenance. Je crois que Dieu ne bouscule pas les âmes. Ouais. Surtout quand ils sont malades de l'âme. Ouais. Il va doucement. Il peut le faire d'une autre manière, naturellement. Alors, que fais-tu? Alors il a répondu la même chose que précédemment, j'ai déployé mon zèle, etc. Il recommence. Donc il semblerait qu'il n'ait pas compris, qu'il n'a pas véritablement saisi. Il dira la même chose. L'Éternel lui a dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et là, à ce moment-là, tu auras trois missions. La première, tu vas introniser un roi. Il s'appellera Hazaël, il deviendra roi de Syrie. Ensuite, tu mettra un homme qui se lèvera, qui s'appellera Jéhu, et qui deviendra tout simplement roi d'Israël. Et ensuite, tu rencontreras ton successeur, Élisée, et il prendra ta place dans le service. Mais Dieu va le rassurer, il va lui dire, mais tu sais, Élie, je l'ai sais. j'ai laissé en Israël 7000 hommes, contrairement à ce que tu penses. Eh bien, ces hommes-là n'ont pas fléchi de genoux devant un Baal. C'est-à-dire que toi, tu croyais être tout seul, tu croyais être le seul croyant, tu croyais être le seul à encore avoir la foi. Et il était découragé à cause de ça. Il pensait que c'était fini. Qu'en Israël, eh bien, il n'y avait plus personne que lui. Moi, je crois que par-delà, et ça, ça nous montre, que par-delà ce que nous ne savons pas, par-delà ce que nous ne voyons pas, eh bien, il faut faire confiance à Dieu. Dieu a des ressources. Et il n'en a pas fini aussi non plus avec nous. Et si nous pensons que quelquefois, eh bien, il n'y a plus rien à faire, Dieu peut nous surprendre. Parce que il y avait encore 7000 hommes qui avaient gardé la foi. Et nous voyons que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va donner, puisqu'il lui avait dit, mais le chemin est long pour toi. Et il va retrouver une nouvelle dimension à sa vie. Il va retrouver une nouvelle consécration. Il va y avoir encore un nouveau service, il va y avoir encore une nouvelle mission. Parce que quelquefois, lorsque nous disons c'est fini et je veux mourir, mais Dieu il dit, mais il n'est pas question que tu meurs, il n'est pas question que tu t'arrêtes. Au contraire, une vie nouvelle va commencer. Et ça, ça s'appelle une renaissance. Ça s'appelle une résurrection en quelque sorte. Et je crois que notre vie, elle est souvent marquée par des moments forts, par des étapes. Alors quand on a fait un bout de chemin dans ce programme-là, eh bien, on arrive au bout, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que je vais faire après ? Eh bien, nous pouvons nous réjouir et ne pas nous poser trop de questions, sinon faire confiance à Dieu. C'est que lorsque nous avons fini un temps, eh bien, une autre va recommencer. C'est ça avec Dieu. Jusqu'au moment où, eh bien, c'est vrai, nous le rencontrerons, nous partirons avec lui. Mais combien de fois nous éprouvons ce sentiment et nous disons, mais c'est fini, il n'y a pas grand-chose maintenant, c'est terminé. Alors que Dieu nous dit, non, c'est pas terminé. La seule chose qui te déprime, c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a après. Et fais-moi confiance, parce que si véritablement tu mets ta foi et ton espoir en moi, alors je te ferai revivre. Et je peux vous dire que, après avoir entendu ce qu'il a entendu, Élie, je peux vous dire que Élie a connu notre existence, a connu notre vie. Et si aujourd'hui vous êtes au bout d'un chemin, que vous êtes profondément malheureux, que vous dites, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Eh bien, ce que je pourrais vous dire, c'est que ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas, Dieu le sait, et il le connaît. Et en son temps, en son heure, il va vous le révéler. Et parce qu'il vous révélera, eh bien, cela va vous guérir. Cela va vous donner de l'espoir et de l'espérance. Alors, je crois qu'on peut simplement terminer par cette parole que nous avons lue au départ. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses. Nous l'avons vu dans notre texte. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, ce qui était le cas avec le prophète, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors si ce soir, eh bien, votre esprit est dans l'abattement, découragé, lassé, fatigué, exténué, chargé, vous connaissez ce que Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos que Dieu nous donne, ce n'est pas simplement l'inactivité, c'est pour recommencer quelque chose avec de nouvelles forces, des forces renouvelées, avec une perspective que Dieu aura complètement et totalement changé. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide ce soir, qu'il nous donne eh bien, toute sa grâce pour comprendre le sens de ses paroles. Et pour cela, eh bien, je vous invite tout simplement à nous courber devant Dieu et lui demander qu'il fasse son œuvre en cet instant par le Saint-Esprit. Et que ce que nous avons entendu suscite de la foi dans notre cœur. Parce que nous l'avons dit et je le répète, ce qui donne les forces nouvelles, c'est ce que nous entendons, et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu, c'est elle, finalement, qui donne la foi. Alors, nous allons prier quelques instants, simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci pour ces paroles de David. Merci pour ce récit d'Élie. Parce qu'en effet, Seigneur, nous croyons que c'était des hommes qui étaient de la même nature que nous. Il n'y avait pas de différence. Parce que, en effet, la joie, l'enthousiasme, les forces, ça, c'est aussi eh bien, le propre de l'humanité. Mais les peines, les souffrances, l'angoisse, nos craintes, nos peurs, c'est aussi ce qui nous caractérise. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, nous faisons partie d'une humanité qui est une humanité dépressive, en raison, Seigneur, des circonstances d'aujourd'hui, en raison, Seigneur, de ce rythme endiablé de notre société, en raison, Seigneur, de tous ces chocs et de tous ces heurts qui, en effet, accidentent tellement d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes plus âgées. Mais nous croyons, Seigneur, que ta parole guérit. Et nous voulons nous souvenir, Seigneur, que nous dit aussi dans un autre texte, il envoya sa parole et il est guéri. Alors Seigneur, c'est toi qui guéris, parce que tu envoies ta parole, et ce soir nous l'avons entendue, et nous voulons la prendre, nous voulons la saisir, et que celui qui est peut-être dans l'abattement puisse relever la tête et se nourrir de cette parole, et de pouvoir dire et de pouvoir affirmer maintenant, eh bien, je crie à toi, Seigneur, je t'apporte mes problèmes et mes difficultés, et je sais que tu m'entends, alors parce que mon cœur est brisé, parce que mon esprit est dans l'abattement, je sais que tu vas me délivrer et me libérer pour me donner une vie nouvelle, me libérer complètement et totalement de toutes ces choses négatives. Merci Seigneur, parce que tu es mon sauveur et mon libérateur. Amen.